Le cousin Ponce, cinquième partie. Le malade tomba d'une maladie dans une autre. D'un tempérament sanguin bilieux, la bile passa dans le sang. Il fut pris par une violente hépatite. Ces deux maladies successives étant les seules de sa vie, il ne connaissait point de médecin. Et, dans une pensée toujours excellente d'abord, maternelle même, la sensible et dévouée Cibot amena le médecin du quartier. À Paris, dans chaque quartier, il existe un médecin, dont le nom et la demeure ne sont connus que de la classe inférieure, des petits bourgeois, des portiers, et qu'on nomme conséquemment le médecin du quartier. Ce médecin, qui fait les accouchements et qui saigne, est en médecine ce qu'est dans les petites affiches le domestique pour tout faire. Obligé d'être bon pour les pauvres, assez expert à cause de sa longue pratique, il est généralement aimé. Le docteur Poulain, amené chez ce malade par Madame Cibot et reconnu par Schmuck, écouta, sans y faire attention, les doléances du vieux musicien, qui pendant toute la nuit s'était gratté la peau, devenu tout à fait insensible. L'état des yeux, cerclés de jaune, s'accordait avec ce symptôme. « Vous avez eu, depuis 2 jours, quelques violents chagrins, » dit le docteur à son malade. « Hélas, oui, » répondit Ponce. « Vous avez la maladie que monsieur a failli avoir, » dit-il en montrant Schmuck. « La jaunisse, mais ce ne sera rien, » ajouta le docteur Poulain en écrivant une ordonnance. Malgré ce dernier mot si consolant, le docteur avait jeté sur le malade un de ses regards hippocratiques, où la sentence de mort, quoique cachée sous une commisération de costume, est toujours devinée par des yeux intéressés à savoir la vérité. Aussi, Madame Cibot, qui plongea dans les yeux du docteur un coup d'œil d'espion, ne se méprit-elle pas à l'accent de la phrase médicale, ni à la physionomie hypocrite du docteur Poulain, et elle le suivit à sa sortie. « Croyez-vous que ce ne sera rien ?» dit Madame Cibot au docteur sur le palier. « Ma chère Madame Cibot, votre monsieur est un homme mort, non par suite de l'invasion de la bile dans le sang, mais à cause de sa faiblesse morale. Avec beaucoup de soins, cependant, votre malade peut encore s'en tirer. Il faudrait le sortir d'ici, l'emmener voyager. « Et avec quoi ?» dit la portière. « Il n'a pour tout potage que sa place. » Et son ami vit de quelques petites rentes que lui font de grandes dames, auxquelles il aurait, à l'entendre, rendu des services, des dames très charitables. C'est 2 enfants que je soigne depuis 9 ans. Je passe ma vie à voir des gens qui meurent, non pas de leur maladie, mais de cette grande et incurable blessure, le manque d'argent. Dans combien de mansardes ne suis-je pas obligé, loin de faire payer ma visite, de laisser 100 sous sur la cheminée. « Pauvre cher monsieur Poulain, » dit Madame Cibot. « Ah, si vous n'aviez les 100 000 livres de rente que possèdent certains grigous du quartier, qui sont de vrais décharnés des enfers, déchaînés, vous seriez le représentant du bon Dieu sur la terre. » Le médecin parvenu, par l'estime de messieurs les concierges de son arrondissement, à se faire une petite clientèle qui suffisait à peine à ses besoins, leva les yeux au ciel et remercia Madame Cibot par une moue digne de Tartuffe. « Vous dites donc, mon cher monsieur Poulain, qu'avec beaucoup de soins, notre cher malade en reviendrait ?»« Oui, s'il n'est pas trop attaqué dans son moral par le chagrin qu'il a éprouvé. »« Pauvre homme, qui donc a pu le chagriner ?» C'est un brave homme qui n'a son pareil sur terre que dans son ami, monsieur Schmuck. Je vais savoir de quoi Neil retourne, et c'est moi qui me charge de savonner ceux qui m'ont sangé mon monsieur. Écoutez, ma chère madame Cibot, dit le médecin qui se trouvait alors sur le pas de la porte cochère, un des principaux caractères de la maladie de votre monsieur. C'est une impatience constante à propos de rien. Et comme il n'est pas vraisemblable qu'il puisse prendre une garde, c'est vous qui le soignerez. Ainsi, c'est-il de monsieur Ponche que vous voulez parler ? Demanda le marchand de ferraille qui fumait une pipe. Et il se leva de dessus la borne de la porte pour se mêler à la conversation de la portière et du concierge. « Eh oui, papa Rémonenc, » répondit madame Cibot à l'Auvergnat. « Eh bien, il est plus riche que monsieur Monistrol et que les seigneurs de la curiosité. Je me connais assez dedans l'antique pour vous dire que le cher homme a deux trésors. Tiens, j'ai cru que vous vous moquiez de moi l'autre jour quand je vous ai montré toutes ces anticailles là pendant que mes messieurs étaient sortis, » dit madame Cibot à Rémonenc. À Paris, où les pavés ont des oreilles, où les portes ont une langue, où les barreaux des fenêtres ont des yeux, rien n'est plus dangereux que de causer devant les portes cochères. Les derniers mots qu'on se dit là, et qui sont à la conversation ce qu'un post-scriptum est à une lettre, contiennent des indiscrétions aussi dangereuses pour ceux qui les laissent écouter que pour ceux qui les recueillent. Un seul exemple pourra suffire à corroborer celui que présente cette histoire. Un jour, l'un des premiers coiffeurs du temps de l'Empire, époque à laquelle les hommes soignaient beaucoup leurs cheveux, sortait d'une maison où il venait de coiffer une jolie femme et où il avait la pratique de tous les riches locataires. Parmi ceux-ci, florissait un vieux garçon armé d'une gouvernante qui détestait les héritiers de son monsieur. Le ci-devant jeune homme, gravement malade, venait de subir une consultation des plus fameux médecins, qui ne s'appelaient pas encore les princes de la science. Sortis par hasard en même temps que le coiffeur, les médecins, en se disant adieu sur le pas de la porte cochère, parlaient, la science et la vérité sur la main, comme ils se parlent entre eux quand la farce de la consultation est jouée. « C'est un homme mort, » dit le docteur Audry. « Il n'a pas un mois à vivre, » répondit Desplein, « à moins d'un miracle. » Le coiffeur entendit ces paroles. Comme tous les coiffeurs, il entretenait des intelligences avec les domestiques. Poussé par une cupidité monstrueuse, il remonte aussitôt chez le ci-devant jeune homme, et il promet à la servante maîtresse une assez belle prime si elle peut décider son maître à placer une grande partie de sa fortune en viager. Dans la fortune du vieux garçon moribond, âgé d'ailleurs de 56 années, qui devait compter double à cause de ses campagnes amoureuses, il se trouvait une magnifique maison, 6 rue de Richelieu, valant alors 250 000 francs. Cette maison, objet de la convoitise du coiffeur, lui fut vendue moyennant une rente viagère de 30 000 francs. Ceci se passait en 1806. Ce coiffeur retiré, septuagénaire aujourd'hui, paye encore la rente en 1846. Comme le ci-devant jeune homme a 96 ans, est en enfance et qu'il a épousé sa madame Évrard, il peut aller encore fort loin. Le coiffeur ayant donné quelque 30 000 francs à la bonne, l'immeuble lui coûte plus d'un million. Mais la maison vaut aujourd'hui près de 800 à 900 000 francs. À l'imitation de ce coiffeur, l'Auvergnat avait écouté les derniers mots dits par Brunner à Ponce sur le pas de sa porte, le jour de l'entrevue du fiancé Phénix avec Cécile. Il avait donc désiré pénétrer dans le musée de Ponce. Rémonenc, qui vivait en bonne intelligence avec les Cibot, fut bientôt introduit dans l'appartement des deux amis en leur absence. Rémonenc, ébloui de tant de richesses, vit un coup à monter, ce qui veut dire, dans l'argot des marchands, une fortune à voler, et il y songeait depuis 5 à 6 jours. « Je badine si peu, » répondit-il à madame Cibot et au docteur Poulain, « que nous causerons de la chose, et que si ce brave mocheux veut une rente viachère de 50 000 francs, je vous paye un panier de vin du pays, si vous me... »« Y pensez-vous ?» dit le médecin à Rémonenc. 50 000 francs de rente viagère? Mais Si le bonhomme est si riche, soigné par moi, gardé par Madame Cibot, il peut guérir alors, car les maladies de foie sont les inconvénients des tempéraments très forts. Aïe, j'ai dit 50, mais un mocheux, là, dessus le page de votre porte, lui a proposé 500 000 francs et seulement de table l'osse fouchtra. En entendant cette déclaration de Rémoninck, Madame Cibot regarda le docteur Poulain d'un air étrange. Le diable allumait un feu sinistre dans ses yeux couleur orange. « Allons, n'écoutons pas de pareilles fariboles !» reprit le médecin, assez heureux de savoir que son client pouvait payer toutes les visites qu'il allait faire. « Mon cher le docteur, chez ma chère Madame Cibot, puisque le moncheux est au lit, veut me laisser amener mon échepère, que je suis sûr de trouver l'argent en 2 heures quand il s'agirait de 100 000 francs. « Bien, mon ami, répondit le docteur. Allons, Madame Cibot, ayez soin de ne jamais contrarier le malade. Il faut vous armer de patience, car tout l'irritera, le fatiguera, même vos attentions pour lui. Attendez-vous à ce qu'il ne trouve rien de bien. « Il sera joliment difficile, » dit la portière. « Voyons, écoutez-moi bien, » reprit le médecin avec autorité. « La vie de Monsieur Ponce est entre les mains de ceux qui le soigneront. Aussi viendrai-je le voir peut-être 2 fois. Tous les jours, je commencerai ma tournée par lui. » Le médecin avait soudain passé de l'insouciance profonde, où il était sur le sort de ses malades pauvres, à la sollicitude la plus tendre, en reconnaissant la possibilité de cette fortune, d'après le sérieux du spéculateur. « Il sera soigné comme un roi !» répondit Madame Cibot avec un factice enthousiasme. La portière attendit que le médecin eût tourné la rue Charlot avant de reprendre la conversation avec Rémoninck. Le ferrailleur achevait sa pipe, le dos appuyé au chambranle de la porte de sa boutique. Il n'avait pas pris cette position sans dessein. Il voulait voir venir à lui la portière. Cette boutique, jadis occupée par un café, était restée telle que l'Auvergnat l'avait trouvée en la prenant à bail. On lisait encore « Café de Normandie » sur le tableau long qui couronne les vitrages de toutes les boutiques modernes. L'Auvergnat avait fait peindre, gratis sans doute, au pinceau et avec une couleur noire, par quelque apprenti peintre en bâtiment, dans l'espace qui restait sous « Café de Normandie », ces mots. « Rémoninck, ferrailleur, achète les marchandises d'occasion. » Naturellement, les glaces, les tables, les tabourets, les étagères, tout le mobilier du Café de Normandie avait été vendu. Rémoninck avait loué, moyennant 600 francs, la boutique toute nue, l'arrière-boutique, la cuisine et une seule chambre en entresol où couchait autrefois le premier garçon, car l'appartement dépendant du Café de Normandie fut compris dans une autre location. Du luxe primitif déployé par le limonadier, il ne restait qu'un papier vert clair uni dans la boutique et les fortes barres de fer de la devanture avec leurs boulons. Venu là en 1831, après la Révolution de Juillet, Rémoninck commença par étaler des sonnettes cassées, des plats fêlés, des ferrailles, de vieilles balances, des poids anciens repoussés par la loi sur les nouvelles mesures que l'État seul n'exécute pas, car il laisse dans la monnaie publique les pièces d'un et de 2 sous qui datent du règne de Louis XVI. Puis, cet Auvergnat, de la force de 5 Auvergnats, acheta des batteries de cuisine, des vieux cadres, des vieux cuivres, des porcelaines écornées. Insensiblement, à force de s'emplir et de se vider, la boutique ressembla aux farces de Nicolet. La nature des marchandises s'améliora. Le ferrailleur suivit cette prodigieuse et sûre martingale, dont les effets se manifestent aux yeux des flâneurs assez philosophes, pour étudier la progression croissante des valeurs qui garnissent ces intelligentes boutiques. Au fer-blanc, au quinquet, au tesson, succèdent des cadres et des cuivres. Puis viennent les porcelaines. Bientôt la boutique, un moment changée en croûtéum, passe au muséum. Enfin, un jour, le vitrage poudreux s'est éclairci. L'intérieur est restauré. L'Auvergnat quitte le velours et les vestes. Il porte des redingotes. On l'aperçoit comme un dragon gardant son trésor. Il est entouré de chefs-d'œuvre. Il est devenu fin connaisseur. Il a décuplé ses capitaux et ne se laisse plus prendre à aucune ruse. Il sait les tours du métier. Le monstre est là, comme une vieille au milieu de 20 jeunes filles qu'elle offre au public. La beauté, les miracles de l'art sont indifférents à cet homme, à la fois fin et grossier, qui calcule ses bénéfices et rudoie les ignorants. Devenu comédien, il joue l'attachement à ses toiles, à ses marqueteries, où il feint la gêne, où il suppose des prix d'acquisition. Il offre de montrer des bordereaux de vente. C'est un proté. Il est dans la même heure Jocris, Jeannot, Queue Rouge ou Mondor, ou Harpagon, ou Nicomède. Dès la troisième année, on vit chez Rémonenc d'assez belles pendules, des armures, de vieux tableaux. Et il faisait, pendant ses absences, garder sa boutique par une grosse femme fort laide, sa sœur, venue du pays à pied, sur sa demande. La Rémonenc, espèce d'idiote au regard vague et vêtue comme une idole japonaise, ne cédait pas un centime sur les prix que son frère indiquait. Elle vaquait d'ailleurs aux soins du ménage et résolvait le problème, en apparence insoluble, de vivre des brouillards de la Seine. Rémonenc et sa sœur se nourrissaient de pain et de harengs, d'épluchures, de restes de légumes ramassés dans l'état d'ordure que les restaurants laissent au coin de leurs bornes. À eux deux, ils ne dépensaient pas, le pain compris, 12 sous par jour. Et la Rémonenc cousait ou filait de manière à les gagner. Ce commencement du négoce de Rémonenc, vêtu pour être commissionnaire à Paris, et qui, de 1825 à 1831, fit les commissions des marchands de curiosités du boulevard Beaumarchais et des chaudronniers de la rue de Lappe, est l'histoire normale de beaucoup de marchands de curiosités. Les Juifs, les Normands, les Auvergnats et les Savoyards, ces quatre races d'hommes ont les mêmes instincts. Ils font fortune par les mêmes moyens. Ne rien dépenser, gagner de légers bénéfices et cumuler intérêts et bénéfices. Telle est leur charte. Et cette charte est une vérité. En ce moment, Rémonenc, réconcilié avec son ancien bourgeois Monistrol, en affaires avec de gros marchands, allait chiner, le mot technique, dans la banlieue de Paris, qui, vous le savez, comporte un rayon de 40 lieues. Après 14 ans de pratique, il était à la tête d'une fortune de 60 000 francs et d'une boutique bien garnie. Sans casuel, rue de Normandie où la modicité du loyer le retenait, il vendait ses marchandises aux marchands en se contentant d'un bénéfice modéré. Toutes ses affaires se traitaient en patois d'Auvergne, dit charabia. Cet homme caressait un rêve. Il souhaitait d'aller s'établir sur les boulevards. Il voulait devenir un riche marchand de curiosités et traiter un jour directement avec les amateurs. Il contenait d'ailleurs un négociant redoutable. Il gardait sur sa figure un enduit poussiéreux produit par la limaille de fer et collé par la sueur, car il faisait tout lui-même, ce qui rendait sa physionomie d'autant plus impénétrable que l'habitude de la peine physique l'avait doué de l'impassibilité stoïque des vieux soldats de 1799. Au physique, Rémonenc apparaissait comme un homme court et maigre, dont les petits yeux, disposés comme ceux des cochons, offraient, dans leur champ d'un bleu froid, l'avidité concentrée, la ruse narquoise des Juifs, moins leur apparente humilité, doublée du profond mépris qu'ils ont pour les chrétiens. Les rapports entre les Cibots et les Rémonenc étaient ceux du bienfaiteur et de l'obligé. Madame Cibot, convaincue de l'excessive pauvreté des Auvergnats, leur vendait à des prix fabuleux les restes de Schmuck et de Cibot. Les Rémonenc payaient 1 livre de croûte sèche et de mie de pain 2 centimes et demi. un centime et demi une écuyée de pommes de terre, et ainsi du reste. Le rusé Rémoninque n'était jamais censé faire d'affaires pour son compte. Il représentait toujours Monistrol, et se disait dévoré par les riches marchands. Aussi les Cibaux plaignaient-ils sincèrement les Rémoninques. Depuis 11 ans, l'Auvergnat n'avait pas encore usé la veste en velours, le pantalon de velours et le gilet de velours qu'il portait. Mais ces trois parties du vêtement, particuliers aux Auvergnats, étaient criblées de pièces, mises gratis par Cibaux. Comme on le voit, tous les Juifs ne sont pas en Israël. « Ne vous moquez-vous pas de moi, Rémoninque ? » dit la portière. « Est-ce que Monsieur Ponce peut avoir une pareille fortune et mener la vie qu'il mène ? Il n'a pas 100 francs chez lui. »« Le jamateur s'en touche comme ça, » répondit sentencieusement Rémoninque. « Ainsi, vous croyez, navré, que mon monsieur n'a pour 700 000 francs ?» Rien qu'en dedans le ch'tabloche. Il en a une qu'échil en voulait 50 000 francs, que je les trouverais-je quand je devrais m'estrangula. Vous savez bien, le petit cadre en cuivre émaillé, pleine de velours rouge, où sont des portraits. Eh bien, chèche d'èche et moche de petite hôte que monsieur le ministre du gouvernement, une ancien d'Hérogis, paye 1000 écus pièces. Il y en a 30 dans les deux cadres, dit la portière dont les yeux se dilatèrent. Eh bien, cherchez de son trésor. Madame Cibaud, prise de vertige, fit volte-face. Elle conçut aussitôt l'idée de se faire coucher sur le testament du bonhomme Ponce, à l'imitation de toutes les servantes, maîtresses, dont les viagers avaient excité tant de cupidité dans le quartier du Marais. Habitant en idée une commune aux environs de Paris, elle s'y pavanait dans une maison de campagne où elle soignait sa basse-cour, son jardin et où elle finissait ses jours, servie comme une reine ainsi que son pauvre Cibaud, qui méritait tant de bonheur, comme tous les anges oubliés, incompris. Dans le mouvement brusque et naïf de la portière, Rémoninque aperçut la certitude d'une réussite. Dans le métier de chineur, tel est le nom des chercheurs d'occasion, du verbe « chiner », aller à la recherche des occasions et conclure de bons marchés avec des détenteurs ignorants. Dans ce métier, la difficulté consiste à pouvoir s'introduire dans les maisons. On ne se figure pas les ruses à la Scapin, les tours à la Sganarelle et les séductions à la Dorine qu'inventent les chineurs pour entrer chez les bourgeois. C'est des comédies dignes du théâtre et toujours fondées comme ici sur la rapacité des domestiques. Les domestiques, surtout à la campagne ou dans les provinces, pour 30 francs d'argent ou de marchandises, font conclure des marchés où le chineur réalise des bénéfices de 1000 à 2 000 francs. Il y a tel service de vieux Sèvres, pâte tendre, dont la conquête, si elle était racontée, montrerait toutes les ruses diplomatiques du congrès de Munster, toute l'intelligence déployée à Nimègue, à Utrecht, à Ryswick, à Vienne, dépassée par les chineurs, dont le comique est bien plus franc que celui des négociateurs. Les chineurs ont des moyens d'action qui plongent tout aussi profondément dans les abîmes de l'intérêt personnel que ceux si péniblement cherchés par les ambassadeurs pour déterminer la rupture des alliances les mieux cimentées. « J'ai joliment allumé la Cibaud, » dit le frère à la sœur en lui voyant reprendre sa place sur une chaise dépaillée. « Et donc, je vais consulter le seul qui s'y connaisse, notre juif, un bon juif, qui ne nous a presté qu'à 15%. » Rémoninque avait lu dans le cœur de la Cibaud. Chez les femmes de cette trempe, vouloir, c'est agir. Elle ne recule devant aucun moyen pour arriver au succès. Elle passe de la probité la plus entière à la scélératesse la plus profonde en un instant. La probité, comme tous nos sentiments d'ailleurs, devrait se diviser en 2 probités. Une probité négative, une probité positive. La probité négative serait celle des Cibaud, qui sont probes tant qu'une occasion de s'enrichir ne s'offre pas à eux. La probité positive serait celle qui reste toujours dans la tentation jusqu'à mi-jambe sans y succomber, comme celle des garçons de recette. Une foule d'intentions mauvaises se rua dans l'intelligence et dans le cœur de cette portière par l'écluse de l'intérêt ouverte à la diabolique parole du ferrailleur. La Cibot monta, vola pour être exact, de la loge à l'appartement de ces deux messieurs, et se montra le visage masqué de tendresse sur le seuil de la chambre où gémissaient Ponce et Schmuck. En voyant entrer la femme de ménage, Schmuck lui fit signe de ne pas dire un mot des véritables opinions du docteur en présence du malade. Car l'ami, le sublime Allemand, avait lu dans les yeux du docteur. Et elle y répondit par un autre signe de tête, en exprimant une profonde douleur. « Eh bien, mon cher monsieur, comment vous sentez-vous ? » dit la Cibot. La portière se posa au pied du lit, les poings sur ses hanches et les yeux fixés sur le malade, amoureusement. Mais quelle paillette d'or en jaillissait ! C'eût été terrible comme un regard de tigre pour un observateur. « Mais bien mal, » répondit le pauvre Ponce. « Je ne me sens plus le moindre appétit. »« Ah, le monde, le monde !» s'écriait-il en pressant la main de Schmuck, qui tenait, assis au chevet du lit, la main de Ponce, et avec qui sans doute le malade parlait des causes de sa maladie. « J'aurais bien mieux fait, mon bon Schmuck, de suivre tes conseils, de dîner ici tous les jours depuis notre réunion, de renoncer à cette société qui roule sur moi comme un tombereau sur un œuf. Et pourquoi ? Allons, allons, mon bon monsieur, pas de doléances, » dit la Cibot. « Le docteur m'a dit la vérité. » Schmuck tira la portière par la robe. « Hé, vous pouvez vous n'en tirer, mais n'avec beaucoup de soin. Soyez tranquille, vous n'avez près de vous d'un bon ami, et sans me vanter, n'une femme qui vous soignera comme n'une mère soigne son premier enfant. J'ai tiré Cibot d'une maladie que M. Poulain l'avait condamnée, qu'il lui n'avait jeté, comme on dit, le drap sur le nez, qu'il n'était abandonné comme mort. Eh bien, vous qui n'en êtes pas là, Dieu merci, quoique vous soyez assez malade, comptez sur moi. Je vous n'en tirerai d'un moi seul. Soyez tranquille. Ne vous n'agitez pas comme ça. » Elle ramena la couverture sur les mains du malade. « N'allez, mon fiston, » dit-elle. « Monsieur Schmuck et moi, nous passerons les nuits, là, à votre chevet. Vous serez mieux gardé qu'un prince. Et d'ailleurs, vous n'êtes assez riche pour ne vous rien refuser de ce qu'il faut à votre maladie. Je viens de m'arranger avec Cibot, car, pauvre cher homme, qu'est-ce qu'il ferait sans moi ? Eh bien, je lui n'ai fait entendre raison, et nous vous aimons tant tous les deux qu'il a consenti à ce que je soigne ici la nuit. Et pour un homme comme lui, c'est un fier sacrifice, allez, car il m'aime comme au premier jour. Je ne sais pas ce qu'il n'a, c'est la loge, tous deux à côté de l'autre, toujours. Ne vous découvrez donc pas ainsi, dit-elle en s'élançant à la tête du lit et ramenant les couvertures sur la poitrine de Ponce. Si vous n'êtes pas gentil, si vous ne faites pas bien tout ce qu'ordonnera M. Poulain, qui est, voyez-vous, l'image du bon Dieu sur la terre, je ne me mêle plus de vous, faut m'obéir. « Oui, mon tam Cibot, il vous s'opéira, » répondit Schmuck. « Car il feut fifre bir son pon ami Schmuck, qu'est le garanti. Ne vous inquiétez pas surtout, car votre maladie, » dit la Cibot, « vous n'y pousse assez, sans que vous n'augmentiez votre défaut de patience. Dieu nous envoie nos maux, mon cher bon monsieur, il nous punit de nos fautes. Vous n'aviez bien quelques chères petites fautes n'a vous reproché. » Le malade inclina la tête négativement. « Oh, n'allez, vous n'aurez aimé dans votre jeunesse, vous n'aurez fait vos fredaines, vous n'avez peut-être quelque part n'un fruit de vos amours, qui n'est sans pain, ni feu, ni lieu. Monstre d'homme, ça n'aime un jour, et puis Friste, ça ne pense plus à rien, pas même nos mois de nourrice. Pauvre femme. Mais il n'y a que Schmouke et ma pauvre mère qui m'aient jamais aimée, dit tristement le pauvre Ponce. Allons, vous n'êtes pas nain saint, vous n'avez été jeune et vous deviez n'être bien joli garçon. À 20 ans, moi, bon comme vous l'êtes, je vous n'aurais aimé. J'ai toujours été laid comme un crapaud, dit Ponce au désespoir. Vous dites cela par modestie, car vous n'avez cela pour vous que vous n'êtes modeste. Mais non, ma chère madame Cibot, je vous le répète, j'ai toujours été laid, et je n'ai jamais été aimé. Par exemple, vous, dit la portière, vous voulez, à cette heure, me faire accroire que vous n'êtes à votre âge comme une rosière, à d'autres, d'un musicien, un homme de théâtre. Mais ce serait n'une femme qui me dirait cela que je ne la croirais pas. Madame Cibot, vous allez l'irriter, cria Schmouke en voyant Ponce qui se tortillait comme un ver dans son lit. Taisez-vous, Nocy, vous n'êtes de vieux libertins. Vous n'avez beau n'être laid, il n'y a si vilain couvercle qui ne trouve son pot, comme dit le proverbe. Cibot s'est bien fait n'aimer d'une des plus belles écaillères de Paris. Vous n'êtes infiniment mieux que lui. Vous n'êtes bon, vous n'avez fait vos farces, et Dieu vous punit d'avoir abandonné vos enfants, comme Abraham. » Le malade, abattu, trouva la force de faire encore un geste de dénégation. « Mais soyez tranquille, ça ne vous empêchera de vivre autant que Mathusalem. » « Mais laissez-moi donc tranquille !» cria Ponce. « Je n'ai jamais su ce que c'était que d'être aimé. Je n'ai pas eu d'enfant, je suis seul sur la terre. » « Ah, bien vrai ?» demanda la portière. « Car vous n'êtes si bon que les femmes qui, voyez-vous, n'aiment la bonté. C'est ce qui les attache. Et il me semblait impossible que dans votre temps... »« Emmène-la !» dit Ponce à l'oreille de Schmouke. « Elle m'agace !»« Monsieur Schmouke, alors, n'en a des enfants. Vous n'êtes tous comme ça, vous autres vieux garçons. »«
Moi ?»
s'écria Schmouke en se dressant sur ses jambes. « Mais... »« Allons, vous aussi, vous n'êtes sans héritier, n'est-ce pas? Vous n'êtes venus tous deux comme des champignons sur cette terre. »«
Foyons, fenez !» répondit Schmouke.
Le bon Allemand prit héroïquement Madame Cibot par la taille et l'emmena dans le salon sans tenir compte de ses cris.
« Vous voudriez, à votre âge, n'abuser d'une pauvre femme !» criait la Cibot en se débattant dans les bras de Schmouke. « Ne grillez pas !»«
Vous, le meilleur des deux !» répondit la Cibot. « Ah, j'ai eu tort de parler d'amour à des vieillards qui n'ont jamais connu de femme. J'ai allumé vos feux, monstre !» s'écria-t-elle en voyant les yeux de Schmouke brillant de colère.
« N'a la garde, n'a la garde, on m'enlève !»«
Vous êtes une pédée !» répondit l'Allemand.
« Foyons, qu'a dit le docteur ?»«
Vous me brutalisez ainsi ?» dit en pleurant la Cibot rendue à la liberté.
« Moi qui me jetterai dans le feu pour vous deux !»« Ah bien, non dit que les hommes se connaissent à l'user, comme c'est vrai !» C'est pas mon pauvre Cibot qui me malmènerait ainsi. Moi, qui fais de vous mes enfants. Car je n'ai pas d'enfants. Et je disais hier, oui, pas plus tard qu'hier, à Cibot. Mon ami, Dieu savait bien ce qu'il faisait en nous refusant des enfants, car j'ai 2 enfants là-haut. Voilà, par la sainte croix de Dieu, sur l'âme de ma mère, ce que je lui disais.
Eh, mais qu'a dit le docteur ?
Demanda rageusement Schmouke, qui pour la première fois de sa vie frappa du pied.
« Eh bien, il n'a dit, »
répondit Madame Cibot en attirant Schmouke dans la salle à manger, « il n'a dit que notre cher bien-aimé et chéri de Namour de malade serait en danger de mourir s'il n'était pas bien soigné. Mais je suis là, malgré vos brutalités, car vous n'êtes brutal, vous que je croyais si doux. N'en avez-vous de ce tempérament ?» Nah, vous n'abuseriez donc n'encore n'à votre âge d'une femme, gros polisson.
Polisson, moi, fous des gros menets tant bas que n'âme que bon.
Nah, la bonne heure, vous me laisserez tranquille, n'est-ce pas?
dit-elle en souriant à Schmuck. « Vous ferez bien, car Cibot casserait les os à quiconque n'attenterait à son honneur. »«
Soignez-le bien, ma petite madame Cibot, »
reprit Schmuck en essayant de prendre la main à madame Cibot.
« Na, voyez-vous, n'encore ?»«
Écoutez-moi donc, tout ce que j'aurai sera à vous, si nous le sauvons. »
« Eh bien, je vais chez l'apothicaire, chercher ce qu'il faut. Car voyez-vous, monsieur, ça coûtera cette maladie. Net, comment ferez-vous ? » ?»«
Je travaillerai. Je veux que Ponce soit soigné comme une prince. » »«
Il le sera, mon bon monsieur Schmuck. Et voyez-vous, ne vous inquiétez de rien. Cibot et moi, nous n'avons 2000 francs d'économie. Elles sont à vous. Il n'y a longtemps que je mets du mien ici, n'allez. »
Bonne femme ! S'écria Schmuck en s'essuyant les yeux.
« Quel cœur !
Séchez des larmes qui m'honorent, car voilà ma récompense à moi !» dit mélodramatiquement la Cibot.
« Je suis la plus désintéressée de toutes les créatures, mais n'entrez pas avec des larmes nos yeux, car Monsieur Ponce croirait qu'il est plus malade qu'il n'est. »
Schmuck, ému de cette délicatesse, prit enfin la main de la Cibot et la lui serra.
« N'épargnez-moi !»
dit l'ancienne écaillère en jetant à Schmuck un regard tendre.
« Ponce !» dit le bon Allemand en rentrant. « C'est une ange que madame Cibot. C'est une ange pafard, mais c'est une ange !»«
Tu crois ? Je suis devenu défiant depuis un mois, » répondit le malade en hochant la tête. « Après tous mes malheurs, on ne croit plus à rien qu'à Dieu et à toi. »
Guéris, et nous fifrons du Strogom Terroas,
s'écria Schmuck.
Cibot,
s'écria la portière essoufflée en entrant dans sa loge.
Ah, mon ami, notre fortune est faite. Mes deux messieurs n'ont pas d'héritier, ni d'enfant naturel, ni rien, quoi. Oh, j'irai chez madame Fontaine me faire tirer les cartes pour savoir ce que nous n'aurons de rente.
Ma femme, répondit le petit tailleur. « Ne comptons pas sur les souliers d'un mort pour être bien chaussés. »«
Ah, oh, ça, vas-tu masticoter, toi ? »
dit-elle en donnant une tape amicale à Cibot.
« Je sais ce que je sais. Monsieur Poulain a condamné Monsieur Ponce. Et nous serons riches. Je serai sur le testament. Je m'en charge. Tire ton aiguille et veille à ta loge. Tu ne feras plus longtemps ce métier-là. » Nous nous retirerons à la campagne, na Batignolles, n'une belle maison, n'un beau jardin, que tu t'amuseras à cultiver, et j'aurai une servante.
Eh bien, Fochine, comment ça va, la haute?
Demanda Raymoninck. Savez-vous ce qu'est votre cette collection?
Non, non, pas encore. Non, ne va pas comme ça, mon brave homme. Moi, j'ai commencé par me faire dire des choses plus importantes.
« Plus importante ? » s'écria Raymoninck. « Mais chez qui est-ce plus importante que cette chose ?»«
Allons, gamin, laisse-moi conduire la barque, » dit la portière avec autorité.
« Mais tant de pourchants, sur 700 000 francs, vous seriez de quoi rester bourgeois pour le reste de votre vie. »«
Soyez tranquille, papa Raymoninck, quand il faudra savoir ce que valent toutes les choses que le bonhomme a amassées, « nous verrons. »
Et la portière, après être allée chez l'apothicaire pour y prendre les médicaments ordonnés par le docteur Poulain, remit au lendemain sa consultation chez madame Fontaine, en pensant qu'elle trouverait les facultés de l'oracle plus nettes, plus fraîches, en s'y trouvant de bon matin avant tout le monde, car il y a souvent foule chez madame Fontaine. Après avoir été pendant 40 ans l'antagoniste de la célèbre mademoiselle Lenormand, à qui d'ailleurs elle a survécu, madame Fontaine était alors l'oracle du Marais. On ne se figure pas ce que sont les tireuses de cartes pour les classes inférieures parisiennes, ni l'influence immense qu'elles exercent sur les déterminations des personnes sans instruction. Car les cuisinières, les portières, les femmes entretenues, les ouvriers, tous ceux qui, dans Paris, vivent d'espérance, consultent les êtres privilégiés qui possèdent l'étrange et inexpliqué pouvoir de lire dans l'avenir. La croyance aux sciences occultes est bien plus répandue que ne l'imaginent les savants, les avocats, les notaires, les médecins, les magistrats et les philosophes. Le peuple a des instincts indélébiles. Parmi ces instincts, celui qu'on nomme si sottement superstition est aussi bien dans le sang du peuple que dans l'esprit des gens supérieurs. Plus d'un homme d'État consulte à Paris les tireuses de cartes. Pour les incrédules, l'astrologie judiciaire, alliance de mots excessivement bizarres, n'est que l'exploitation d'un sentiment inné, l'un des plus forts de notre nature, la curiosité. Les incrédules nient donc complètement les rapports que la divination établit entre la destinée humaine et la configuration qu'on en obtient par les 7 ou 8 moyens principaux qui composent l'astrologie judiciaire. Mais il en est des sciences occultes, comme de tant d'effets naturels repoussés par les esprits forts ou par les philosophes matérialistes, c'est-à-dire ceux qui s'en tiennent uniquement aux faits visibles, solides, aux résultats de la cornue ou des balances de la physique et de la chimie moderne. Ces sciences subsistent, elles continuent leur marche, sans progrès d'ailleurs, car depuis environ 2 siècles, la culture en est abandonnée par les esprits d'élite. En ne regardant que le côté possible de la divination, croire que les événements antérieurs de la vie d'un homme, que les secrets connus de lui seul peuvent être immédiatement représentés par des cartes qu'il mêle, qu'il coupe, et que le diseur d'horoscope divise en paquets d'après des lois mystérieuses, c'est l'absurde. Mais c'est l'absurde qui condamnait la vapeur, qui condamne encore la navigation aérienne, qui condamnait les inventions de la poudre et de l'imprimerie, celles des lunettes, de la gravure, et la dernière grande découverte, la daguerréotypie. Si quelqu'un fût venu dire à Napoléon qu'un édifice et qu'un homme sont incessamment et à toute heure représentés par une image dans l'atmosphère, que tous les objets existants y ont un spectre saisissable, perceptible, il aurait logé cet homme à Charenton, comme Richelieu logea Salomon de Caux à Bicêtre, lorsque le martyr normand lui apporta l'immense conquête de la navigation à vapeur. Et c'est là, cependant, ce que naguère a prouvé par sa découverte. Eh bien, si Dieu a imprimé, pour certains yeux clairvoyants, la destinée de chaque homme dans sa physionomie, en prenant ce mot comme l'expression totale du corps, pourquoi la main ne résumerait-elle pas la physionomie, puisque la main est l'action humaine tout entière et son seul moyen de manifestation? De là, la chiromancie. La société n'imite-t-elle pas Dieu? Prédire à un homme les événements de sa vie à l'aspect de sa main n'est pas un fait plus extraordinaire chez celui qui a reçu les facultés du voyant que le fait de dire à un soldat qu'il se battra, à un avocat qu'il parlera, à un cordonnier qu'il fera des souliers ou des bottes, à un cultivateur qu'il fumera la terre et la labourera. Choisissons un exemple frappant. Le génie est tellement visible en l'homme qu'en se promenant à Paris, les gens les plus ignorants devinent un grand artiste quand il passe. C'est comme un soleil moral dont les rayons colorent tout à son passage. Un imbécile ne se reconnaît-il pas immédiatement par des impressions contraires à celles que produit l'homme de génie? Un homme ordinaire passe presque inaperçu. La plupart des observateurs de la nature sociale et parisienne peuvent dire la profession d'un passant en le voyant venir. Aujourd'hui, les mystères du sabbat, si bien peints par les peintres du XVIe siècle, ne sont plus des mystères. Les Égyptiennes ou les Égyptiens, pères des Bohémiens, cette nation étrange venue des Indes, faisaient tout uniment prendre du haschich à ses clients. Les phénomènes produits par cette conserve expliquent parfaitement le chevauchage sur les balais, la fuite par les cheminées, les « visions réelles », pour ainsi dire, des vieilles femmes changées en jeunes femmes, les danses furibondes et les délicieuses musiques qui composaient les fantaisies des prétendus adorateurs du diable. Aujourd'hui, tant de faits avérés, authentiques, sont issus des sciences occultes, qu'un jour ces sciences seront professées comme on professe la chimie et l'astronomie. Il est même singulier qu'au moment où l'on crée à Paris des chaires de slaves, de mandchous, de littérature aussi peu professable que les littératures du Nord, qui, au lieu de fournir des leçons, devraient en recevoir, et dont les titulaires répètent d'éternels articles sur Shakespeare ou sur le XVIe siècle, on n'est pas restitué, sous le nom d'anthropologie, l'enseignement de la philosophie occulte, l'une des gloires de l'ancienne université. En ceci, l'Allemagne, ce pays à la fois si grand et si enfant, a devancé la France, car on y professe cette science, bien plus utile que les différentes philosophies, qui sont toutes la même chose. Que certains êtres aient le pouvoir d'apercevoir les faits à venir dans le germe des causes, comme le grand inventeur aperçoit une industrie, une science dans un effet naturel inaperçu du vulgaire, ce n'est plus une de ces violentes exceptions qui font rumeur. C'est l'effet d'une faculté reconnue, et qui serait en quelque sorte le somnambulisme de l'esprit. Si donc cette proposition, sur laquelle reposent les différentes manières de déchiffrer l'avenir, semble absurde, le fait est là. Remarquez que prédire les gros événements de l'avenir n'est pas, pour le voyant, un tour de force plus extraordinaire que celui de deviner le passé. Le passé, l'avenir, sont également impossibles à savoir dans le système des incrédules. Si les événements accomplis ont laissé des traces, il est vraisemblable d'imaginer que les événements à venir ont leurs racines. Dès qu'un diseur de bonne aventure vous explique minutieusement les faits connus de vous seul dans votre vie antérieure, il peut vous dire les événements que produiront les causes existantes. Le monde moral est taillé, pour ainsi dire, sur le patron du monde naturel. Les mêmes effets s'y doivent retrouver avec les différences propres à leurs divers milieux. Ainsi, de même que les corps se projettent réellement dans l'atmosphère en y laissant subsister ce spectre saisi par le daguerréotype qui l'arrête au passage, de même les idées, créations réelles et agissantes, s'impriment dans ce qu'il faut nommer l'atmosphère du monde spirituel. Ils produisent des effets, ils vivent spectralement. Car il est nécessaire de forger des mots pour exprimer des phénomènes innommés. Et dès lors, certaines créatures douées de facultés rares peuvent parfaitement apercevoir ces formes ou ces traces d'idées. Quant aux moyens employés pour arriver aux visions, c'est là le merveilleux, le plus explicable, dès que la main du consultant dispose les objets à l'aide desquels on lui fait représenter les hasards de sa vie. En effet, tout s'enchaîne dans le monde réel. Tout mouvement y correspond à une cause, toute cause se rattache à l'ensemble, et conséquemment, l'ensemble se représente dans le moindre mouvement. Rabelais, le plus grand esprit de l'humanité moderne, cet homme qui résuma Pythagore, Hippocrate, Aristophane et Dante, a dit, il y a maintenant 3 siècles, « L'homme est un microcosme ». 3 siècles après, Swedenborg, le grand prophète suédois, disait que la terre était un homme. Le prophète et le précurseur de l'incrédulité se rencontraient ainsi dans la plus grande des formules. Tout est fatal dans la vie humaine, comme dans la vie de notre planète. Les moindres accidents, les plus futiles, y sont subordonnés. Donc, les grandes choses, les grands desseins, les grandes pensées s'y reflètent nécessairement dans les plus petites actions, et avec tant de fidélité que, si quelque conspirateur mêle et coupe un jeu de cartes, il y écrira le secret de sa conspiration, pour le voyant appelé bohème, diseur de bonne aventure, charlatan, etc. Dès qu'on admet la fatalité, c'est-à-dire l'enchaînement des causes, l'astrologie judiciaire existe et devient ce qu'elle était jadis, une science immense, car elle comprend la faculté de déduction qui fit Cuvier si grand, mais spontané, au lieu d'être, comme chez ce beau génie, exercé dans les nuits studieuses du cabinet. L'astrologie judiciaire, la divination, a régné pendant 7 siècles, non pas comme aujourd'hui sur les gens du peuple, mais sur les plus grandes intelligences, sur les souverains, sur les reines et sur les gens riches. Une des plus grandes sciences de l'Antiquité, le magnétisme animal, est sortie des sciences occultes, comme la chimie est sortie des fourneaux des alchimistes. La crânologie, la physiognomonie, la névrologie en sont également issues. Et les illustres créateurs de ces sciences, en apparence nouvelles, n'ont eu qu'un tort, celui de tous les inventeurs, et qui consiste à systématiser absolument des faits isolés, dont la cause génératrice échappe encore à l'analyse. Un jour, l'Église catholique et la philosophie moderne se sont trouvés d'accord avec la justice pour proscrire, persécuter, ridiculiser les mystères de la Kabbale ainsi que ses adeptes. Et il s'est fait une regrettable lacune de 100 ans dans le règne et l'étude des sciences occultes. Quoi qu'il en soit, le peuple et beaucoup de gens d'esprit, les femmes surtout, continuent à payer leur contribution à la mystérieuse puissance de ceux qui peuvent soulever le voile de l'avenir. Ils vont leur acheter de l'espérance, du courage, de la force, c'est-à-dire ce que la religion seule peut donner. Aussi, cette science est-elle toujours pratiquée, non sans quelques risques. Aujourd'hui, les sorciers, garantis de tout supplice par la tolérance due aux encyclopédistes du XVIIIe siècle, ne sont plus justiciables que de la police correctionnelle, et dans le cas seulement où ils se livrent à des manœuvres frauduleuses. Quand ils effraient leurs pratiques dans le dessein d'extorquer de l'argent, ce qui constitue une escroquerie. Malheureusement, l'escroquerie et souvent le crime accompagnent l'exercice de cette faculté sublime. Voici pourquoi. Les dons admirables qui font le voyant se rencontrent ordinairement chez les gens à qui l'on décerne l'épithète de « brutes ». Ces brutes sont les vases d'élection où Dieu met les élixirs qui surprennent l'humanité. Ces brutes donnent les prophètes, les Saint-Pierre, les Lermites. Toutes les fois que la pensée demeure dans sa totalité, reste bloc, ne se débite pas en conversation, en intrigue, en œuvre de littérature, en imagination de savant, en effort administratif, en conception d'inventeur, en travaux guerriers, elle est apte à jeter les feux d'une intensité prodigieuse, contenue comme le diamant brut garde l'éclat de ses facettes. Vienne une circonstance. Cette intelligence s'allume, elle a des ailes pour franchir les distances, des yeux divins pour tout voir. Hier, c'était un charbon, le lendemain, sous le jet du fluide inconnu qui la traverse, c'est un diamant qui rayonne. Les gens supérieurs, usés sur toutes les phases de leur intelligence, ne peuvent jamais, à moins de ces miracles que Dieu se permet quelquefois, offrir cette puissance suprême. Aussi, les devins et les devineresses sont-ils presque toujours des mendiants ou des mendiantes à esprit vierge, des êtres en apparence grossiers, des cailloux roulés dans les torrents de la misère, dans les ornières de la vie, où ils n'ont dépensé que des souffrances physiques. Le prophète, le voyant, c'est enfin Martin le laboureur qui a fait trembler Louis XVIII en disant un secret que le roi pouvait seul savoir. C'est une mademoiselle Lenormand, une cuisinière comme Madame Fontaine, une négresse presque idiote, un pâtre vivant avec des bêtes à cornes, un fakir assis au bord d'une pagode, et qui, tuant la chair, fait arriver l'esprit à toute la puissance inconnue des facultés somnambulesques. C'est en Asie que de tout temps se sont rencontrés les héros des sciences occultes. Souvent, alors, ces gens qui, dans l'état ordinaire, restent ce qu'ils sont, car ils remplissent en quelque sorte les fonctions physiques et chimiques des corps conducteurs de l'électricité, tour à tour métaux inertes ou canaux pleins de fluides mystérieux, ces gens, redevenus eux-mêmes, s'adonnent à des pratiques, à des calculs qui les mènent en police correctionnelle, voire même, comme le fameux Balthazar, en cour d'assises et au bagne. Enfin, ce qui prouve l'immense pouvoir que la cartomancie exerce sur les gens du peuple, c'est que la vie ou la mort du pauvre musicien dépendait de l'horoscope que Madame Fontaine allait tirer à Madame Cibot. Quoique certaines répétitions soient inévitables dans une histoire aussi considérable et aussi chargée de détails que l'est une histoire complète de la société française au XIXe siècle, il est inutile de peindre le taudis de Madame Fontaine, déjà décrit dans « Les comédiens sans le savoir ». Seulement, il est nécessaire de faire observer que Madame Cibot entra chez Madame Fontaine, qui demeure rue Vieille du Temple, comme les habitués du café anglais entrent dans ce restaurant pour y déjeuner. Madame Cibot, pratique fort ancienne, amenait souvent là des jeunes personnes et des commères dévorés de curiosité. La vieille domestique, qui servait de prévôt à la tireuse de cartes, ouvrit la porte du sanctuaire sans prévenir sa maîtresse. « C'est Madame Cibot, entrez » ajouta-t-elle. « Il n'y a personne. » « Eh bien, ma petite, qu'avez-vous donc pour venir si matin ?» dit la sorcière. Madame Fontaine, alors âgée de 78 ans, méritait cette qualification pour son extérieur digne d'une parque. « J'ai les 100 tournées, donnez-moi le grand jeu !» s'écria la Cibot. « Il s'agit de ma fortune !» Et elle expliqua la situation dans laquelle elle se trouvait en demandant une prédiction pour son sordide espoir. « Vous ne savez pas ce que c'est que le grand jeu ?» dit solennellement Madame Fontaine. « Non, je ne suis pas assez riche pour n'en avoir jamais vu la farce. 100 francs, excusez du peu, nous que je les aurais pris, mais aujourd'hui, il me le faut. » « Je ne le joue pas souvent, ma petite, » répondit Madame Fontaine. « Je ne le donne aux riches que dans les grandes occasions. » Et on me le paye 25 louis, car, voyez-vous, ça me fatigue, ça m'use. L'esprit me tripote, là, dans l'estomac. C'est, comme on disait autrefois, aller au sabbat. Mais quand je vous dis, ma bonne Mame Fontaine, qu'il s'agit de mon avenir... Enfin, pour vous à qui je dois tant de consultations, je vais me livrer à l'esprit, répondit Madame Fontaine, en laissant voir sur sa figure décrépite une expression de terreur qui n'était pas jouée. Elle quitta sa vieille bergère crasseuse au coin de sa cheminée, alla vers sa table couverte d'un drap vert dont toutes les cordes usées pouvaient se compter, et où dormait à gauche un crapaud d'une dimension extraordinaire, à côté d'une cage ouverte et habitée par une poule noire aux plumes ébouriffées. « Astaroth ! « Ici, mon fils !» dit-elle en donnant un léger coup d'une longue aiguille à tricoter sur le dos du crapaud, qui la regarda d'un air intelligent. « Et vous, mademoiselle Cléopâtre, attention » reprit-elle en donnant un petit coup sur le bec de la vieille poule. Madame Fontaine se recueillit, elle demeura pendant quelques instants immobile. Elle eut l'air d'une morte, ses yeux tournèrent et devinrent blancs. Puis elle se roidit et dit « Me voilà !» d'une voix caverneuse. Après avoir automatiquement éparpillé du millet pour Cléopâtre, elle prit son grand jeu, le mêla convulsivement et le fit couper par Madame Cibot, mais en soupirant profondément. Quand cette image de la mort en turban crasseux, en casaquin sinistre, regarda les grains de millet que la poule noire piquait, et appela son crapaud Astaroth pour qu'il se promenât sur les cartes étalées, Madame Cibot eut froid dans le dos. Elle tressaillit. Il n'y a que les grandes croyances qui donnent de grandes émotions. Avoir ou n'avoir pas de rente, telle était la question, a dit Shakespeare. Après 7 ou 8 minutes, pendant lesquelles la sorcière ouvrit et lut un grimoire d'une voix sépulcrale, examina les grains qui restaient, le chemin que faisait le crapaud en se retirant, elle déchiffra le sens des cartes en y dirigeant ses yeux blancs. « Vous réussirez, quoique rien dans cette affaire ne doive aller comme vous le croyez, » dit-elle. « Vous aurez bien des démarches à faire, mais vous recueillerez le fruit de vos peines. Vous vous conduirez bien mal. » Mais ce sera pour vous comme pour tous ceux qui sont auprès des malades et qui convoitent une part de succession. Vous serez aidé dans cette œuvre de malfaisance par des personnages considérables. Plus tard, vous vous repentirez dans les angoisses de la mort, car vous mourrez assassiné par deux forçats évadés, un petit à cheveux rouges et un vieux tout chauve, à cause de la fortune qu'on vous supposera dans le village où vous vous retirerez avec votre second mari. Allez, ma fille, vous êtes libre d'agir ou de rester tranquille. L'exaltation intérieure qui venait d'allumer des torches dans les yeux caves de ce squelette si froid en apparence, cessa. Lorsque l'horoscope fut prononcé, Madame Fontaine éprouva comme un éblouissement et fut en tout point semblable aux somnambules quand on les réveille. Elle regarda tout d'un air étonné, puis elle reconnut Madame Cibot et parut surprise de la voir en proie à l'horreur peinte sur ce visage. « Eh bien, ma fille, » dit-elle d'une voix tout à fait différente de celle qu'elle avait eue en prophétisant, « êtes-vous contente ?» Madame Cibot regarda la sorcière d'un air hébété sans pouvoir lui répondre. « Ah, vous avez voulu le grand jeu. Je vous ai traitée comme une vieille connaissance. Donnez-moi 100 francs, seulement. »«
Cibot, mourir ?» s'écria la portière.
« Je vous ai donc dit des choses bien terribles ?» demanda très ingénument Madame Fontaine.
« Mais oui !»
dit la Cibot en tirant de sa poche 100 francs et les posant au bord de la table.
« Mourir assassiné ?»«
Ah, voilà, vous voulez le grand jeu. Mais consolez-vous, tous les gens assassinés dans les cartes ne meurent pas. »«
Mais c'est impossible, Mame Fontaine !»
Ah, ma petite belle, moi je n'en sais rien. Vous avez voulu frapper à la porte de l'avenir. J'ai tiré le cordon, voilà tout, et il est venu.
Qui, il ?
Dit Madame Cibot.
Eh bien, l'esprit, quoi !
Répliqua la sorcière impatientée.
Adieu, Mame Fontaine ! S'écria la portière. Je ne connaissais pas le grand jeu. Vous m'avez bien effrayée, n'allez !
« Madame ne se met pas 2 fois par mois dans cet état-là, » dit la servante en reconduisant la portière jusque sur le palier. « Elle crèverait à la peine, tant ça la lasse. Elle va manger des côtelettes et dormir pendant 3 heures. »